c'est le tube en Afrique en ce moment. Oh, oui. Ça passe sur toutes les radios, mais pas en français. Ça passe en Gourmanché. Et voilà, c'est vraiment le tube. Hein. Tout le monde, quand il voit Olivier, oh, oh. Voilà. Merci Seigneur pour cette bonne soirée, pour ce moment. Béni, je te prie mon Dieu que tu m'aides à prêcher ce message et que mes frères et sœurs puissent bien saisir ce que j'ai à dire. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Vous allez tous bien, j'espère.
Oui.
Eh bien, moi aussi. Alors, on va faire une lecture dans 1 Corinthiens 2, 14, 16, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, 14, 16. Je vais prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ce soir encore, nous te prions de nous faire comprendre les choses que nous avons besoin de comprendre et aussi pour ceux qui sont au loin, qui écoutent ce message enregistré, enregistré sur le net, je te prie qu'il soit béni et fortifié et qu'il puisse aussi aider d'autres personnes en écoutant ce que je dis là ce soir, qu'il puisse les aider à s'approcher de toi mieux. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, eh bien, je fais la lecture. C'est 1 Corinthiens 2, 14, 16. L'homme qui n'a pas... Je lis dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Hein. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner, et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet Esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits, les idées, à leur juste valeur, et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Certes, mais nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même de Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est pas compliqué à comprendre, pourtant il y en a qui comprennent pas. Il y a la vraie Église et il y a la fausse Église, pour la simple et bonne raison qu'il y a des chrétiens et il y a des disciples. Il y a des gens conduits par leur âme et il y a des gens conduits par leur esprit vivifié par le Saint-Esprit. Alors c'est pas aisé de reconnaître d'un coup d'œil, au premier coup d'œil, même des fois les choses se révèlent avec le temps, qui est conduit par son âme plutôt que par l'esprit. Parce que l'âme peut être religieuse. L'âme peut être religieuse, sincèrement religieuse, se croyant une bonne chrétienne, voire même un bon disciple, alors qu'en fait elle n'est que religieuse. Les âmes religieuses, quand elles voient, ou plutôt quand elles entrevoient les choses du royaume de Dieu, elles se mettent à le critiquer. Pourquoi ? Ben parce qu'elles sont sous l'influence de l'ordre naturel des choses. Alors, en entrevoyant les choses du royaume de Dieu, elles pensent ou disent, oh, mais ça, c'est pas comme ça que ça doit être, ça n'est pas juste, ça n'est pas normal. Les gens conduits par leur âme religieuse sont un peu comme, je crois que je vous avais déjà parlé une fois, un cyclope. Vous savez ce que c'est qu'un cyclope? Un cyclope, c'est un personnage de la Grèce antique, qui n'a qu'un œil au milieu du front, et voilà. Ce cyclope, il part en voyage et puis il trouve une peuplade de gens qui ont deux yeux. Alors, il rentre chez lui puis il dit, oh, j'ai vu des monstres. Mais alors, épouvantable. Mais épouvantable. Rendez-vous compte, ils ont deux yeux au lieu d'un seul. C'est atroce, c'est affreux. On doit absolument les attraper et puis leur arracher leur second œil parce qu'ils sont monstrueux, ils sont contre nature. Voilà. C'est à peu près une bonne image pour représenter ce qui se passe entre les gens spirituels et les gens religieux. Il y a incompatibilité. Dès que vous êtes spirituel, dès que vous êtes rempli du Saint-Esprit, dès que vous avez quelques facultés de plus que le commun des mortels, alors dès que les gens s'en aperçoivent, ils veulent vous l'enlever Ou alors ils disent que c'est du diable, ou alors ils disent que vous êtes victime d'une fausse interprétation des écritures. Voilà, c'est comme ça, et ils vous cataloguent. Ils ne peuvent plus vous brûler sur le bûcher aujourd'hui, mais ils peuvent faire des tas de choses mauvaises quand même, vraiment. Donc ils disent, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, parce que voyez-vous, la norme, c'est la majorité. La norme, c'est la majorité. Alors, si la majorité est animale, il faut être conforme à la majorité, et se conformer à l'animal et le rester, absolument. Voilà, il ne faut pas bouger de là, c'est comme ça. Alors, s'il y a des anges, bien évidemment, pour eux, ça ne peut être que des démons. Voilà. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Et si c'est votre mentalité, et que vous écoutiez mes enseignements, et si, par la grâce de Dieu, j'arrive à vous faire changer de point de vue, de façon de raisonner, alors vous allez voir des résultats fantastiques dans votre vie. Seulement voilà, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez comprendre? C'est ça la question. Jésus dit que l'être animal ne peut pas comprendre. L'être animal, ça c'est des vieilles versions. Maintenant, dans des versions nouvelles, ils sont plus polis, n'est-ce pas? Ils disent l'être naturel, voilà. L'être animal ou l'être naturel, l'être qui n'a que ses facultés naturelles, il ne peut pas comprendre. Or, avec nos simples facultés naturelles, nous pouvons avoir quand même conscience de l'existence de Dieu, on peut même se convertir, mais on ne peut pas naître de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau. Ce que j'appelle une âme religieuse, c'est une âme, c'est-à-dire un être, le mot âme, ça veut dire être, ça fait mille fois que je le répète, donc maintenant vous le savez, une âme c'est un être, une personne, qui peut être convertie, c'est-à-dire une personne qui aime Dieu, une personne qui va à l'église, une personne qui lit la Bible, une personne qui lit la Bible avec une grille de lecture que sa religion, plus ou moins vivante, lui a imposée, hein, c'est clair. C'est une personne qui ne pratique plus certains péchés grossiers qu'elle pratiquait avant, c'est une personne qui prie, c'est une personne qui s'est détournée des choses mauvaises de ce monde, bref, c'est une personne convertie, c'est-à-dire qui a changé de direction. Convertie, ça ne veut pas dire rentrer dans le catholicisme ou rentrer dans le protestantisme, ça veut dire changer de route. Tu marchais dans cette direction et tu changes de route, tu marches dans la direction du ciel. Amen. Mais c'est pas naître de nouveau se convertir. Se convertir, c'est pas naître de nouveau. Cette personne n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Par exemple, elle n'acceptera pas les dons de l'Esprit dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Elle va tout mélanger avec Marc chapitre 16, avec d'autres textes qui disent, qui semblent se contredire alors qu'ils ne se contredisent pas, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas. Je peux leur expliquer, rien à faire, ça. Ce sont des choses spirituelles, et comme ils ne les ont pas vécues, comme ils ne les ont pas expérimentées, eh ben, ils ne les comprennent pas, voilà. Une personne convertie, mais pas née de nouveau, va déclarer que tout ça n'est que folie. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il va déclarer que tout ça, c'est de la folie. Il est très poli, là, Paul. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres mots, mais bon. Parce qu'ils sont incapables de comprendre ces choses-là. Parce qu'il leur manque quelque chose. L'apôtre Paul dit, il leur manque la lumière. Il leur manque la lumière. C'est ce que Paul dit dans le texte qu'on a lu là au commencement de cette prédication. Alors, une telle personne va se tourner vers l'intellectualisme religieux. Et ils vont appeler ça pompeusement la théologie. La théologie. Et une personne comme cela va développer une série de croyances sur tous les sujets bibliques, avec des « moi je pense que ». Et si tu ne penses pas comme moi, tu es un hérétique. Voilà, alors « moi je pense que ». Mes frères et sœurs, nous n'utilisons pas la connaissance, bien que nous n'en soyons pas dépourvus, pour convaincre. Nous faisons des démonstrations de la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Ça devrait les faire réfléchir, mais non, ça ne les fait pas réfléchir. Ça ne les fait pas réfléchir parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir. Les aveugles voient, c'est sûrement le diable qui a fait ça. Hein, voilà. Les sourds entendent, c'est bien sûr du diable. Voilà. Mais ou alors c'est, je ne sais pas, un pouvoir. Je sais pas. C'est toujours, c'est bizarre. Alors que l'apôtre Paul dit, nous ne faisons pas une démonstration par des explications, comment on dit, tarabiscoté, merci Marie-Claire. Non, non, nous faisons une démonstration de puissance d'esprit. Eh bien, quand on fait ce que Paul faisait, eh bien, non, ils ne comprennent pas non plus. Ils sont dans les ténèbres. Vous voyez, cela, on ne peut pas faire, par exemple, rendre la vue à un aveugle avec nos simples facultés. Je parlais avec une femme l'autre jour à Toulouse, et puis elle me disait, mais comment vous faites ça? Je lui dis, moi, c'est pas moi qui fais ça. Comment voulez-vous que je guérisse un aveugle? Comment voulez-vous que je guérisse un sourd? Je peux pas, c'était de ma possibilité, je guérirais tous les aveugles, tous les sourds, tous les... Mais c'est pas de ma possibilité, c'est... Alors, Paul, il le savait bien, et c'est donc ainsi qu'il agissait, c'est-à-dire en être anormal aux yeux des normaux. Voilà, voilà. Il avait pris Jésus comme modèle, et il savait très bien quelles seraient les conséquences. Hein, son modèle, ben, humainement, il a assez mal fini quand même, hein, sur une croix. Parce que, évidemment, eux, pour eux, ça s'arrête là. Il n'y a pas de résurrection hein, pour les gens normaux. Quand Jésus agissait avec puissance, les êtres religieux disaient, il a un démon. Ben, comment voulez-vous, ils disent la même chose aujourd'hui de ceux qui agissent avec puissance. Ou alors ils disaient, c'est par la puissance de Belzébuth qu'il fait ces choses. Et ils ont fini, ces mêmes personnes, par le mettre en croix. Jésus n'était pas normal. Jésus n'entrait pas dans la norme. Alors depuis des années, je m'applique à enseigner que nous avons deux natures. La nature inférieure, animale, notre personnalité, si vous voulez, notre l'être humain que nous sommes, ça c'est la nature inférieure, bref, l'âme c'est la nature inférieure. Et nous avons notre nature supérieure, notre nature d'origine divine, notre esprit, l'esprit humain que Dieu a soufflé dans le petit corps qui est né, sortant du ventre de sa mère. Et cette nature divine, c'est donc notre esprit. C'est quelque chose en nous qui est divin, une étincelle de divinité. Quand une personne se repent et se fait baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, selon Actes 2, 38, comme Philippe a baptisé l'eunuque dans l'eau, que je sache, c'était pas autre chose, eh bien, une telle personne reçoit le Saint-Esprit. Le problème est que certains ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est pas la faute du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit veut venir s'établir en eux, mais eux ne le reçoivent pas, c'est-à-dire ne l'accueillent pas, ne lui ouvrent pas la porte. Ils veulent rester aux commandes. Et en cela, ils attristent le Saint-Esprit qui se retire. Le Saint-Esprit, il est représenté sous la forme d'une colombe. La colombe, c'est un animal extraordinaire, qui n'a pas de bile, qui ne se met pas en colère. Vous n'avez jamais vu une colombe qui grince des dents, qui se met en colère? Non, elle s'en va. C'est tout simple, elle s'en va. Alors, ces gens-là sont convertis, mais pas nés de nouveau, parce qu'ils ne sont pas nés de l'Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et je répète, ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, parce que quand une personne se repent, ça c'est ce que Pierre dit, « Homme, frère, que ferons-nous ?» L'apôtre Pierre répond, il faut se repentir, il faut être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit s'ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si quelqu'un frappe à votre porte et puis dit, « Non, aujourd'hui je veux rester tranquille, je ne veux personne chez moi, je ne veux pas m'embêter. » Donc leur propre esprit, cette étincelle divine qui est en eux, reste endormi. Et il faut vraiment bien le comprendre, la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 45, que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, parce qu'il a reçu un esprit humain, mais que le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. En venant au monde, un esprit est entré dans votre corps, et vous êtes devenu un être vivant, une âme. Ça, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça, c'est ce qui arrive en premier. Puis le spirituel vient ensuite, quand votre âme reçoit, accueille le Saint-Esprit de Jésus, votre esprit humain s'éveille et vous naissez de nouveau, vous êtes vivifié par le second Adam, qui est un esprit qui vivifie. C'est ce que Paul dit. Alors, si vous ne croyez pas, eh bien, je vous redonne le texte, 1 Corinthiens 15, 45. Nous étions morts à cause de nos offenses, nous avions offensé Dieu, mais après nous être repentis, après avoir été immergés dans l'eau du baptême pour le pardon de nos péchés, selon Actes 2, 38, comme ça s'est passé tout au long des Écritures, vous lisez Corneille était baptisé, l'eunuque était baptisé, tout ça c'était dans l'eau, c'était, voilà, mais, alors l'Esprit vient, et nous l'avons reçu, nous l'avons accueilli, il est venu habiter en nous, et il nous a vivifiés, il nous a rendus à la vie, de mort que nous étions, séparés de Dieu, nous avons de nouveau communion avec lui, une telle communion, il vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, il vit en nous, nous sommes nés de nouveau. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, depuis 49 ans que j'ai consacré ma vie à Dieu, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu, ce que ces gens ont écrit, dit, des gens haut placés dans le milieu chrétien, des grands penseurs, des gens très intelligents, et pourtant, ils ne savaient pas faire la différence quand ils agissaient d'après leur âme ou selon l'esprit. Ils ne savaient pas faire la différence. Ils n'avaient pas de notion claire, ils n'avaient pas de critères, il n'avait pas de mesure, simplement, la plupart pensent que tout ce qui sort d'eux, c'est juste et magnifique, du moment que c'est eux qui l'ont dit, qui l'ont écrit ou qui l'ont souhaité. C'est un grave problème. Ce qui fait que tout le monde dit « j'ai raison ». Mais maintenant, ce qui prouve qu'une personne a raison, c'est que Dieu est avec pour confirmer ce que la personne dit par des signes, des prodiges et des miracles. Marc chapitre 16, c'est pas moi qui l'invente et je ne cherche pas à me vanter de quoi que ce soit. Simplement, je veux attirer votre attention sur des réalités. Sur des réalités. Mais ils ne savent pas s'observer eux-mêmes. Ils ne savent pas analyser ce qui glisse entre eux de bizarre, voire même de diabolique. Ces gens-là, ils sont soit pas nés de nouveau, soit ils sont des nouveaux, mais ils sont des bébés spirituels. Vous avez des vieux bébés spirituels. Moi, je connais des bébés spirituels qui ont 30 ans d'âge. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils sont nés de nouveau, mais c'est encore des bébés spirituels. Ils en sont encore au petit lait, au béaba. Ils découvrent des choses avec émerveillement, soit, alors que ça fait 30 ans qu'on leur a déjà dit. Enfin, bon. Des bébés spirituels qui ont, malgré leur intelligence, ils peuvent être très intelligents, hein, mais ils ont beaucoup à apprendre quant aux choses de l'esprit. Mais pour pouvoir recevoir les choses de l'esprit, pour pouvoir apprendre les choses de l'esprit, il faut de l'humilité, il faut du renoncement. C'est pas simplement renoncer à ses biens matériels, mais c'est renoncer à tout, à son moi, à sa personnalité. Notre âme ne doit pas être notre maîtresse. Notre maîtrise doit être celle qui vient du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, c'est une des tranches du fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en vous produit un fruit, et ce fruit, il y a plusieurs tranches. Une de ces tranches, c'est la maîtrise de soi. C'est pas à votre âme de maîtriser votre vie. C'est au Saint-Esprit qui est en vous. Ça produit, quand le Saint-Esprit est en vous, ça produit quelque chose. Notre âme, c'est une mauvaise maîtresse. Par contre, elle peut devenir une excellente servante. Il faut utiliser notre âme, notre être, l'être que nous sommes, mettre notre âme au travail et en tirer profit, 1, pour la gloire de Dieu, 2, pour le bien des autres, 3, pour en tirer un peu une satisfaction quand même, parce que il y a du plaisir à servir Dieu. D'accord ? Par exemple, si je sers Dieu en nourrissant les pauvres, mais que je me glorifie moi-même, que je ne glorifie pas Dieu, eh bien, ça ne sert à rien du tout. La Bible dit « je suis un airain qui résonne ». Si je sers Dieu avec des lois et des machins, mais que les gens sont malheureux parce que c'est des lois sur lois, commandement sur commandement, bon, là, ça ne marche pas non plus. Ou alors si je tire moi-même une satisfaction, mais que ça ne glorifie pas Dieu, il faut les trois. Il faut que Dieu soit glorifié, que ça fasse du bien aux autres et que nous ayons une satisfaction. Si ces trois conditions sont remplies, alors vous pouvez être certain, c'est un des critères, comme quoi vous avez une vie guidée par le Saint-Esprit. D'accord ? Ça s'apprend, c'est une initiation. Ça vient en lisant la Bible, en méditant sur ce que la Bible dit, en priant humblement et par l'expérience. Donc, avec le temps, alors, le Saint-Esprit se met à laisser des traces partout où vous allez, dans tout ce que vous faites. Et ça devient une vie magnifique, magnifique. Les gens prient, ne reçoivent pas, la Bible dit, parce qu'ils demandent mal. C'est pas qu'ils utilisent des mauvaises formules, c'est pas ça. C'est simplement qu'ils demandent de façon à satisfaire leurs besoins inférieurs. Vous lirez ça dans Jacques 4, 3. Simplement, ils cherchent à satisfaire leurs besoins inférieurs. C'est pourquoi ce qu'ils demandent, ils ne le reçoivent pas, même si c'est de bonnes choses qu'ils demandent. Il n'y a pas d'autre secret pour une vie spirituelle. Le secret, c'est le renoncement à la chair, c'est accueillir le Saint-Esprit, le recevoir comme une personne, c'est la personne de Dieu en vous. La chair sera toujours là, mais elle va apprendre à se discipliner, vous allez la discipliner. Votre esprit, avec l'Esprit de Dieu, va discipliner votre chair, elle va devenir une servante. Au début, vous allez voir, elle n'aime pas ça du tout, puis même tout au long de votre vie, chaque fois si elle peut faire un écart, elle le fait. Mais un disciple de Jésus, il doit être une exception. Il n'est pas normal, il n'est pas selon la norme, un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus doit orienter son âme, c'est-à-dire son être, ses capacités, ses forces, son temps, à faire un paradis sur terre. Tous les chrétiens le savent, mais il n'y a que les disciples pour le faire, vous voyez. Un disciple de Jésus doit savoir à n'importe quel moment ce qui se passe en lui, dans quelle direction va son énergie, dans quel but et pour quelle raison. Ce qu'il fait, est-ce que c'est pour la construction ou la destruction du royaume de Dieu? Ce qu'il fait, est-ce que c'est pour la construction ou la destruction de l'enfer? Pour la construction ou la destruction de l'ennoblissement? Pour la construction ou la destruction de l'avilissement? Le disciple de Jésus, il le sait parce qu'il est, il entend les chuchotements du Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai à dire pour ce dimanche. J'espère que ça va toucher quelques personnes. C'est là, en tout cas, ma prière. Jésus, je te demande d'aider mes frères et sœurs à comprendre, à mettre en pratique et à enseigner ces choses dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen.